Dépôt du budget fédéral demain du ministre Bill Morneau et jeudi, ce sera le tout premier budget du nouveau gouvernement de la CAQ déposé par le ministre des Finances Éric Girard et Pierre-Yves, deux demandes budgétaires du Parti québécois.
Évidemment, la semaine des comptables et des fiscalistes, Paul, on écoute ça avec intérêt. La première demande du PQ, c'est on veut qu'on réinvestisse en santé et en éducation. Et quand on regarde le budget qui avait été divulgué en mars, et qu'on regarde un peu les postes budgétaires. Mais sur l'année 2018-2019, on avait prévu des revenus consolidés de 109 milliards 597 millions. Là-dessus, on disait, OK, bon, il y a un 9 milliards au service de la dette, mais pour le reste, on a déjà 42 milliards en santé et 23-24 milliards en éducation. Donc, tu sais, dire qu'on est austère envers la santé et l'éducation, c'est peut-être parce que dans le passé, on était austère. Mais il faut dire que c'est quand même une grosse portion de notre budget. Donc, ça veut dire qu'à peu près, là, quand on paie de l'impôt, on a un 58-60 cents là, qui s'en va à la santé et l'éducation en partant, dès le début. Donc, si on veut augmenter ça, il faut couper ailleurs ou restructurer le budget. C'est pas gratuit. Autre point, on nous parle des garderies, évidemment, puis des maternelles 4 ans. Puis là, il y a un débat entre les maternelles et les garderies. Puis là, le PQ dit, on va éliminer la contribution supplémentaire des parents qui ont un revenu plus élevé. Puis on va rendre ça universel pour tout le monde. Mais premièrement, pour qu'il y ait un paiement universel pour tout le monde en garderie, faudrait qu'il y ait une offre subventionnée de garderie pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Donc, on a un double message. D'un côté, on dit « maternelle 4 ans, ça va être trop cher », et de l'autre côté, on dit « on aime mieux le réseau des CPE et les garderies subventionnées », mais on n'a même pas pour tout le monde de toute façon. Donc, c'est un peu hypocrite de dire d'un côté « hey, on veut des services universels », quand dans le fond, on l'a pas, le service universel. C'est des chanceux, des pas chanceux, dépendant de vos revenus. En fait, plus vous êtes riche, plus le service subventionné présentement vous coûte cher parce qu'il y a une contribution supplémentaire. Donc, et plus vous êtes pauvre, plus le service privé est rentable parce que vous avez une extraordinaire déduction qui vous permet peut-être d'être plus rentable au niveau privé. Donc, ça dépend. Mais c'est très beau comme message politique marketing, mais dans la réalité, ça frappe les faits.
La carte de crédit, le soleil qui sortait l'idée d'interdire l'accès à la carte de crédit pour les jeunes de moins de 18 ans.
Ouais, et là, évidemment, les cartes de crédit sont émises à des adultes habituellement, mais les parents signent souvent à 16 ans, 17 ans, pour être le co-détenteur, le co-signataire. Et ça permet aux jeunes d'apprendre à servir une carte de crédit. Ça permet aux jeunes, tu sais, c'est comme si je te disais, touche pas au feu avant 18 ans, tu peux te brûler. Ou touche pas un marteau parce qu'il y a des gens qui sont déjà plus jeunes qui sont faites mal. La carte de crédit, c'est un outil d'endettement, oui, puis il faut payer chaque mois, puis ça encourage les gens à s'endetter, oui. D'un autre côté, ça te permet de bâtir ton ADN de client, ton ADN de citoyen pour payer un prêt hypothécaire moins cher parce que tu auras un bon dossier de crédit. Alors la question c'est, est-ce qu'on doit aller dans la prévention ou dans la restriction? Si on va dans la prévention puis qu'on éduque, ben on n'est pas dans la cigarette là. Tu sais, on n'est pas dans quelque chose qui va te donner le cancer, on est dans quelque chose qui va nuire à ta santé financière. À 18 ans ou à 17 ans, est-ce qu'il y a une grosse différence? Je pense que c'est beaucoup plus dans l'éducation qu'il faut aller que dans la restriction. Il faut pas oublier que la carte de crédit offre aussi, tu sais, une protection en cas de besoin parce que c'est une carte de plus, tu sais. Si par exemple, j'ai pas accès à mon compte de banque, mais j'ai une carte de crédit sur moi, je peux payer des choses, donc il y a un avantage. Donc,
non seulement ça, dans certains établissements, on exige une carte de crédit.
Ouais, exact. On t'exige de payer. Puis quand tu veux faire un achat sur Internet parce que t'es un millénial, tu te dis, moi, je vais plus dans les magasins. Ah, ben non, là, t'as pas le droit d'acheter avant 18 ans sans que tes parents surveillent. C'est quand même bizarre. Donc, peut-être qu'on pourrait dire supervision des parents, peut-être.
La fiscalité québécoise est progressive.
Oui.
Plus on gagne de revenus, plus on paye d'impôts. Ça, c'est une réalité.
C'est une réalité. Mais là, Paul, on arrive dans le découragement national. Là, on arrive dans notre période d'impôts. Je voulais t'en parler, tu sais. Et la fiscalité québécoise est progressive, oui. Mais elle est aussi décourageante d'une autre façon. Par exemple, en cette période de déclaration de revenus, plus tu vas déclarer de revenus, plus tu vas monter de seuil d'impôt, ça c'est sûr. Tu vas passer d'un taux d'impôt, là. Par exemple, si t'es à 40 000, tu vas être ton prochain dollar à 27% imposé, 27,53 combiné. Mais plus tu montes, là, t'arrives à 46, tu tombes à 37,12. T'arrives à 93 000, t'es rendu à 45,71. Puis t'atteins de demander 53,31% sur le prochain dollar. Mais qui plus est, chaque fois que tu augmentes tes revenus, mettons que t'as des enfants, là, on va te dire « oh! » Tes frais de garde vont être plus élevés, c'est un service subventionné, contribution supplémentaire.
Mm-hmm.
Après ça, les études de tes enfants, on va te dire, tu vas avoir moins de prêts et bourses, parce que là, t'es trop riche. Après ça, on va te dire au niveau fédéral, tu sais, l'allocation canadienne pour enfants, qu'on te donne en fonction de tes revenus, Ben, sais-tu quoi? On va te l'enlever aussi en pourcentage de tes revenus, plus t'augmentes. Alors donc, il y a une double imposition. En plus de perdre de l'aide de l'État, t'en donnes plus. Alors, il y a un découragement. On va aller plus loin. L'allocation famille du gouvernement qu'on vient de dire, là, le premier paiement vient d'arriver. Ben, plus vous avez d'enfants, plus vous avez d'allocations de famille. Mais si vous avez un trop gros revenu, on vous en enlève. Donc, ça continue comme ça. Donc, là, de monnaie, la personne qui paie beaucoup d'impôts commence vraiment à se dire, « Hey, là, mon voisin qui travaille à temps partiel, qui a une belle vie, là. » Il y a quelque chose qui marche pas. Mon effort de travailler la fin de semaine ou les soirs ou de gagner beaucoup de revenus est tellement pénalisé que je vais faire la chose suivante. Je vais cumuler de l'argent quand je suis jeune. Puis je vais jouer le jeu de la game du système fiscal. C'est beau, j'ai payé cette année mon impôt, c'est terminé. Je vais piler, m'en remplir mon CELI, m'en remplir mon REER, m'en m'arranger pour déclarer à la retraite 30 000 avec ma conjointe ou mon conjoint.
Exact.
Puis après ça, je vais profiter en plus du crédit d'impôt pour solidarité, même si je suis multimillionnaire.
Ben oui,
parce
ça va dépendre.
Planifier.
C'est ça. Ça va dépendre de ce que tu vas retirer à ta retraite.
Mais t'as rendu compte à quel point on peut commencer à être choqué parce que là, ta maison, Paul, est non imposable. Ton CELI est non imposable. Mm-hmm. Ton REER, tu le retires tranquillement pas vite pour minimiser l'impôt.
Voilà.
Donc, le truc, c'est de pas gagner trop d'argent dans
exact.
Ta vie.
C'est ça.
Faut pas trop épargner parce que demander tu vas en avoir trop, tu vas payer trop d'impôts.
Penses-tu qu'il y a un ministre des Finances qui, un jour, dans son budget, qui t'a écouté ce soir, va aller dans l'autre sens? Voyons donc.
Mais ce qu'on me dit,
mais
par
non,
exemple,
mais politiquement, ça serait suicidaire.
Oui, mais ce qui est bon, Paul, sais-tu qu'est-ce qui est bon? C'est que les gens ne mettront pas d'argent dans la CELI, ne feront pas de planification fiscale et qu'au total dans la société, on sait très bien que statistiquement, il y a plus de gens qui vivent avec 100% de leur salaire chaque année et qui épargnent moins. Et donc, le problème que je te parle va servir à quelques individus un peu bizarres, un peu smart, c'est-à-dire, je prends ma retraite à 45 ans, je vais économiser à peu près 22% d'impôts sur le reste de ma vie, puis je vais avoir à peu près la même qualité de vie. Le seul modèle, c'est d'avoir économisé jeune. Donc, c'est une question. T'es à une ou deux ou trois, quatre voitures de luxe versus usagé, de vivre une vie différente à la retraite fiscalement. Alors, pensons-y, Paul. Je vais me fier sur tes conseils de personnes qui ont passé à travers la fiscalité plus longtemps que moi pour me dire quels auront été tes bons et tes mauvais coups.
Non, mais c'est plutôt l'inverse. C'est toi qui es l'expert, c'est pour ça qu'on t'écoute.
Alors, oui, mais je veux dire, peut-être, tu me diras, Pierre, j'aurais dû faire ça parce qu'après coup, tu sais, c'est beau quand même, la fiscalité. Ça te dit, épargne jeune, puis vis selon un moins gros rythme de vie.
Voilà, ben diminue ton rythme de vie. Il y en a beaucoup, ils n'ont pas le choix, c'est ce qu'ils font. Passer un certain âge. D'ailleurs, ça veut dire quoi ça? Un certain âge. C'est dans la tête.
C'est une bonne question, Paul. Hein? Tout le monde me dit que l'âge, c'est dans la tête.
Ben oui.
Je pense pas que je serais fracturé une jambe à 15 ans comme ça sur la glace. Je pense que l'âge a un impact quand même.
Tu l'as encore sur le corps, sur la jambe.
Je l'ai sur le portefeuille,
Paul.
Ça fait mal.
Oh, salut, à demain.
Salut.